Bonsoir. L'Assemblée nationale a déclaré recevable hier mercredi le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2016. Voté en décembre 2015 à plus de 8 milliards de dollars, le budget 2016 ainsi modifié connaîtra une diminution d'un peu plus de 2 milliards de dollars américains, soit 22%. Le Premier ministre a avancé comme raison de cette diminution, entre autres la baisse du prix des matières premières sur le marché mondial. Quelle analyse faire de ce projet de loi? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Honorable Dieudonné Moïse. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Vous êtes député national honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Honorable André Massoumbo, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes député national de l'opposition et président du Parti pour la Renaissance du Congo, RECO. Également membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale, Israël Moutala. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2016 déclaré recevable. Ainsi en a décidé l'Assemblée plénière de ce mercredi à Kinshasa. Voté en décembre 2015 à plus de 8 milliards de dollars, le budget 2016 ainsi modifié connaît une dépréciation d'un peu plus de 2 milliards de dollars américains. Toujours au cours de la plénière de ce mercredi, le Premier ministre a avancé les raisons de cette diminution. Michel Kifindangoy.
Répondant aux questions lui posées par les députés nationaux lundi sur l'exécution du budget 2016 au premier trimestre, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo explique.
S'agissant précisément de l'exécution du budget de l'exercice 2016 au premier trimestre, elle n'a pas été heureuse pour les deux raisons suivantes. Premièrement, la baisse sensible du niveau de recettes due essentiellement à la chute des cours des principales matières premières d'exportation ainsi que la fermeture de l'entreprise KCC et des entreprises connexes. Les recettes des quatre premiers mois de l'année 2016 sont inférieures de près de 150 milliards de francs congolais par rapport à celles de la même période au cours de l'exercice 2015.
Le projet de loi des finances rectificatives 2016 déclaré recevable est donc envoyé en commission pour examen approfondi. À en croire le président de l'Assemblée nationale, les priorités dans la répartition budgétaire seront la sécurité, la défense et les élections.
Merci Michel Kifindangoy. Dieudonné Moïse, vous êtes député national honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez ce projet de loi?
Monsieur Alain, écoutez, je pense que ce qui arrive aujourd'hui à notre économie et à notre budget national était prévisible. Vous rappelez que l'année passée, lorsque le gouvernement présentait son projet de budget dès l'exercice 2016, et déjà au départ, en termes de prévision de recettes et de dépenses, il s'affichait pratiquement une réalité connue, c'est-à-dire que le budget de l'exercice 2016 était déjà un tout petit peu inférieur au budget de 2015. Et que le gouvernement avait déjà promis, compte tenu des signaux qui étaient réels et manifestement visibles sur le plan de l'économie nationale, le gouvernement, je disais, avait promis déjà de penser, de pouvoir procéder à une sorte de révision de ce budget. Mais le gouvernement l'a dit par la bouche de son premier ministre, je crois que ce sont eux qui sont à la gestion quotidienne de ce pays. Ils l'ont dit clairement qu'après l'exécution du budget 2016 tel qu'il avait été voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État, il s'est avéré que les niveaux des recettes étaient tombés trop bas et que ces recettes ne pouvaient pas permettre à ce que l'on puisse supporter convenablement les dépenses. Et les raisons évoquées sont des raisons que nous connaissons, tous nous vivons dans ce pays, c'est que de manière notable, nous constatons qu'il y a chute de cours de métaux sur le plan, sur le marché international, et que aujourd'hui quand vous êtes au Katanga, qui est essentiellement j'ai pas de l'ex-Katanga, cette province productrice essentiellement de minerais. Vous avez les cours du cuivre, du cobalt, du zinc, de l'étain, ainsi de suite. Tous ces cours sur le plan du marché international ont connu une baisse sensible. Mais en dehors de ça, également, il y a des entreprises carrément minières qui ont fermé. Et l'exemple a été donné des KCC, mais il y a encore d'autres entreprises, pas simplement que d'autres ont fermé totalement, mais d'autres ont procédé par ce que nous appelons la mise en congé technique. Quand vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Likasi, à Kasumbalesa et même un peu à Kambove et consorts, vous constatez que les entreprises minières fonctionnent pratiquement à bas régime. Mais le malheur que nous avons dans ce pays, c'est que nous avons une économie totalement extravertie. Une économie qui dépend presque à 80% de l'extérieur. Et quand vous ne vivez que de l'importation, effectivement, quelque part, vous êtes un peu comme à la merci de tous ces paramètres qui peuvent être n'est pas nécessairement maîtrisables sur le plan international. Et c'est ce qui nous arrive. Je crois que au fil de cette émission, nous allons pouvoir peut-être proposer des solutions pour nous permettre de quitter cette étape.
Alors, honorable, on dit que gouverner, c'est prévoir, connaissant cette situation. Peut-on dire que le gouvernement a navigué à vue?
Non,
c'est prévisible.
Je pense que le gouvernement n'a pas navigué à vue, mais comme vous le savez, un budget, c'est un ensemble de prévisions. Et ça, c'est comme ça qu'on le dit. Et que, en dehors de prévisions de recettes, il y a toujours à côté les prévisions de dépenses. Et nous ne devons pas oublier que certaines dépenses sont des fois contraignantes. C'est-à-dire, quand vous n'y arrivez pas, vous avez ce que vous avez. Et généralement, c'est la colère de la population. Et le gouvernement n'a pas navigué à vue. La vérité, c'est quoi? C'est que, je vous l'ai dit, d'ailleurs, en liminaire, le gouvernement a senti déjà ce qui devait arriver pendant l'exercice 2016. C'est ainsi que par rapport à l'année 2015, le gouvernement n'a pas présenté le même budget. Il a présenté un budget à la baisse. Vous êtes des médias et visitez le budget depuis 5 dernières années ou depuis 10 dernières années. Vous vous rendrez compte que chaque année, notre budget national augmente de autant de pourcentages. Et je me rappelle bien qu'il y a 15 ans, nous n'avons même pas un budget qui tournait autour d'un milliard. Aujourd'hui, nous parlons de budget de 8 milliards. Je crois que c'est déjà une bonne évolution. Et chaque année, notre budget national augmente. Exceptionnellement, entre 2015 et 2016, notre budget est tombé à la baisse. Je le dis en connaissance des causes et sous le contrôle de l'honorable André et qui a la commission économique et financière. Moi, mais je vous rappelle que j'étais dans la même commission. Donc, je sais plus ou moins entre 2006 et 2005 et 2011 comment nous avions évolué. Il peut le témoigner qu'entre 2011 et 2015, ils ont également évolué de la même manière, mais exceptionnellement entre 2015 et 2016, le budget est tombé en plongeant. Donc vous comprenez que c'était déjà une prévision, mais peut-être qu'ils n'ont pas pu estimer la hauteur de cette baisse. Mais maintenant qu'ils constatent que réellement la baisse les pousse à pouvoir amener un projet de rectification des finances, je crois que ce sont des mécanismes légaux reconnus et que le gouvernement a l'obligation d'aligner ses dépenses par rapport aux recettes. Et le Parlement a eu le courage d'accepter ce projet rectificatif du budget et ils ont, je crois, 5 jours pour pouvoir en débattre et permettre de donner les moyens nécessaires de la politique du gouvernement.
Honorable André Massoumbou, vous êtes député national de l'opposition et président du Parti pour la Renaissance du Congo RECO, également membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. C'était prévisible, dit l'honorable Moinzé, mais il y a des auditeurs, par exemple, Alma Simopendoa de Nairobi, qui dit « C'est d'abord honteux de voir un pays comme la RDC espérer ses rendements d'un seul secteur, le secteur minier. Ne pas savoir faire ses plans, c'est planifier son échec. »
D'abord, je vous remercie. Je vais d'abord commencer par vous dire que le gouvernement, depuis 2011 jusqu'à ce jour, je dirais même plus, même un peu avant, jusqu'à ce jour, n'arrive pas à réaliser, disons, ses prévisions. Et son taux de réalisation pendant ces 4 ans a été de 60 à 64%. Ce qui montre que les gouvernements ne surveillent pas régulièrement sur toutes ces rubriques. D'ailleurs, le gouvernement ne vient jamais au niveau du Parlement pour faire une communication alors qu'il est prévu dans la Constitution qui devrait nécessairement passer au moins une fois par an pour faire la communication des difficultés rencontrées au cours de deux premiers trimestres. Mais ils l'ont jamais fait. Vous avez vu, il y a, je pense, trois semaines, il y avait une question orale sur l'évaluation du programme du gouvernement de notre collègue Mindolé. Il a coté, après avoir évalué, à 35%. Alors que lui-même, le Premier ministre, voulait faire croire à la nation que son programme était évalué à plus ou moins 60%, ce qui n'est pas vrai. Bon, je reviens maintenant au niveau du budget. Effectivement, la loi lui permet de présenter une loi rectificative lorsque il constate qu'il y a des nouveaux éléments qui sont positifs ou négatifs au cours d'une conjoncture bien déterminée. Et là, la conjoncture qu'il a prise, c'est la conjoncture internationale au niveau mondial sur le mine et le pétrole, et qui a sensiblement diminué. Mais je tiens à faire remarquer ici que déjà, quand nous avons voté la loi 2016 en octobre 2015, il était tout à fait, nous avons prévu déjà la diminution. Donc, si c'est simulation, nous avons simulé qu'il y aura diminution de taux, si vous voulez, de prix de mine que nous avons coté à 5 000 $ la tonne de cuivre.
Et donc vous étiez déjà en avance au niveau de l'Assemblée nationale.
Tout à fait. Mais ce taux est passé pour le premier trimestre à 4 100. Et pour le pétrole, les barils, nous l'avons coté à plus ou moins $50 le baril, alors qu'auparavant, dans les années antérieures, donc les quatre premières années, il était à $100 le baril. Et donc, nous avons tenu compte, sur le budget 2016, à $50. Le baril. Alors, il faut que les amis comprennent qu'aujourd'hui, depuis le mois d'avril jusqu'à ce jour, le baril qui était à $30, qui a baissé au mois de janvier à $30 le baril, il est remonté aujourd'hui à $47.15 le baril, alors que nous l'avons coté à 50. Donc, je suis sûr qu'au cours des mois à venir, le mois de mai, le mois de juin et la suite, l'avenir sera plus ou moins
radieux.
C'est-à-dire qu'on va retomber sur les chiffres du budget antérieur.
Est-ce que vous voulez dire par là que le Premier ministre se serait, par exemple, précipité de demander cette rectification du budget?
Oui, il y a eu quand même des anticipations. Il s'est basé, bien sûr, sa crainte, c'était sur le premier trimestre. Mais maintenant, les choses sont en train de remonter. Vous pouvez taper, maintenant même à l'internet, je demande à tout le monde de le faire, taper le prix du baril qui était de 30 zaïres en premier trimestre.
$30, pardon.
Pourquoi je dis zaïre?
Ça arrive.
À $30, eh bien, il est remonté aujourd'hui à 47.15. Et le mine, qui était à 4 100. La crainte, donc, 4 100, il est remonté aujourd'hui à 4 660. À l'internet, vous pouvez remarquer ça. Donc, tout à fait, il y a des choses qu'il faut nécessairement revoir dans ce projet de loi des finances rectificatives.
Alors, honorable, vous avez évoqué le fait que le gouvernement n'arrive pas à réaliser ses prévisions. Dans plusieurs plénières, on a suivi qu'il était question des dépassements budgétaires. Il y avait des institutions plus budgétivores que d'autres. Est-ce qu'il y aurait un problème de gouvernance?
Mais tout à fait, parce que comment voulez-vous que déjà, rien que sur le poste de la primature, il a totalement consommé son budget de l'année.
Et totalement.
Totalement consommé. Et il veut maintenant venir demander une rectification sur ses rubriques. Mais ça, il faut alors qu'on revoie tous les postes. Et d'ailleurs, ce projet est au niveau de la commission ECOFIN, même si on nous demande de les faire en 5 jours, nous allons travailler nuit et jour pour essayer de trouver des solutions ensemble avec le gouvernement.
Israël Moutala, vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Comment vous analysez cette situation?
Merci, mais avant d'analyser, j'aimerais un peu rebondir sur le propos de l'honorable André Massombo, parce que cette émission a une fonction aussi pédagogique.
Oui.
Ça veut dire que les fluctuations des cours de matières premières d'exportation ne doivent pas être jugées sur le moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand la tonne de cuivre à 4600 à peu près, et le baril de pétrole à 47 $, quittant à 30 les mois passés, donc les prévisions du gouvernement doivent se baser sur une moyenne. Ça veut dire que même aujourd'hui à 50 $, même pendant 2 mois, ça ne va pas compenser toutes les pertes. Donc pour compenser les pertes quand c'était à 30, il faudrait au moins que le baril soit au-dessus de 70 ou 80 $ pendant les mois où il était à 30. Et donc, nous ne sommes pas encore à un baril à 50 $, à 60 ou à 70. Mais il peut rester encore à 47, même à 50, pendant tout le reste de l'année. Donc s'il reste, par exemple, le baril du pétrole reste à 50 $, pendant les mois qui restent, ça ne va pas compenser les pertes des 4 premiers mois. Donc voilà pourquoi c'est une moyenne. Donc même le cadrage de 50% dans le budget actuel jusque là, pour qu'il soit rattrapé, il faudra espérer que le baril de pétrole remonte au-delà de 70 et pendant de longs mois. Sur le baril du pétrole, le cuivre également. Le cuivre, c'est le véritable baromètre de notre économie. Donc à 4650, on est toujours loin du compte, parce que je crois que le cadrage du budget initialement était autour de 6500 ou 7000 $ la tonne. Et donc la tonne de cuivre a chuté à 4100 $, même aujourd'hui en remontant à 4600 $, on n'a pas encore justement épongé toutes les pertes. Donc il faudrait que la tonne de cuivre remonte au-delà de 7500 la tonne pendant les restes de mois et rester constant ou monter encore davantage pour espérer qu'on est dans le cadrage de 6500 ou 7000 $ la tonne. Autrement, les pertes subies vont demeurer. Donc le projet rectificatif qui a été soumis en a tenu compte. Donc il faut absolument d'abord être extrêmement réaliste par rapport aux recettes, et là où il faut être extrêmement rigoureux, c'est justement le volet dépenses. Donc c'est là, en termes pour maintenir un certain équilibre budgétaire, il faudrait d'abord discipliner ces dépenses, mais du côté de recettes, nous sommes en tout cas hyper dépendants des fluctuations des matières premières, nous sommes dépendants de la détérioration des termes de l'échange, nous sommes dépendants justement d'une économie, comme l'a dit l'honorable Moins, extravertie. Mais ça, c'est un reproche qu'on ne peut pas faire à un gouvernement actuel. Ça veut dire que la transformation d'une économie, ça ne se fait pas en un mandat. C'est un mouvement de fond et de politique sectorielle, des réformes structurelles de fonds qui doivent s'installer dans la durée. Et quand vous voulez, par exemple, transformer une économie pour la rendre indépendante ou moins vulnérable aux chèques exogènes, c'est un travail de fond qui commence justement par une politique d'investissement dans les secteurs autres que miniers, autres que de rente.
Alors, j'allais vous poser la question entre une économie extravertie et un problème de gouvernance, quelle est l'option à laquelle on devrait donner la faute? Donc là, l'économie extravertie, vous faites tomber cette assertion-là. Peut-on parler, comme j'ai dit à l'honorable Massoumou, d'un problème de gouvernance?
Bon, la rectification du budget n'est pas en soi un problème de gouvernance. Comme on l'a dit ici, c'est d'abord un choc exogène. Ça veut dire que nous sommes une économie de rente qui dépend principalement des matières premières d'exportation. Ça veut dire que chaque fois que la tonne de cuivre augmente sur le marché intérieur, nous gagnons plus d'argent. Chaque fois que le baril du pétrole, justement, remonte à la hausse, le Congo gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Chaque fois que une tonne de maïs ou une tonne de riz augmente sur le marché international, nous perdons de l'argent. Donc, la balance commerciale doit être regardée de manière équilibrée. Mais pour être moins dépendant justement de ces fluctuations de ressources naturelles sur le marché international, il y a un travail de fond, n'est-ce pas, sur le plan national.
En interne.
En interne. Ça veut dire que nous retombons sur la problématique de l'introversion, de la transformation de notre économie pour que nous produisions ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisions, pas justement produire ce que nous ne consommons pas et consommer ce que nous ne produisons pas. Et donc, il y a le paradigme de notre modèle économique qui est à revoir. Mais pour le faire, bon sang, on ne le fait pas avec un budget en ressources propres de 4 milliards. Parce que sur les 4 milliards de ressources propres en termes de prévision du gouvernement, le tiers va au paiement de salaire, le tiers va au paiement, au fonctionnement des institutions, et le tiers, si on est heureux, va à l'investissement. Et donc pour un pays avec des dimensions comme les nôtres, avec une population de 80 millions d'habitants, 1 milliard de dollars en termes d'investissement ne peut rien faire. Et donc d'où la réelle politique commande que nous puissions nous appuyer dans un premier temps sur le secteur privé. Donc encourager un maximum d'investissement dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs de l'industrie, dans les secteurs de l'énergie, avec ces investissements qui vont féconder l'économie, on pourra justement redevenir indépendant économiquement et avoir la maîtrise de notre budget. Mais pour l'instant, nous en sommes encore loin.
Honorable Moïse, il y a certains économistes qui pensent que le Premier ministre devrait par exemple venir avec des propositions concrètes pour dire par exemple que du côté des mines, j'ai perdu autant d'argent que je voudrais le récupérer sur tel autre ou dans tel autre secteur. Concrètement, il pense qu'il devrait faire cet exercice-là.
Je peux commencer par cette question avant de rebondir sur ce que j'ai entendu autour de cette table. Il faut avouer que le travail de la rectification de la loi des finances ne se fait pas lors d'une plénière, non. La preuve, c'est qu'il existe des commissions spécialisées au sein du Parlement, à l'Assemblée nationale,
où on
approfondit la question. Donc le Premier ministre ne peut pas venir tout étaler lors d'une plénière ou lors d'une adresse de quelques 20 minutes, non. C'est pour cela que la commission ad hoc a été chargée de pouvoir travailler sur ce projet rectificatif, mais aussi, comme il l'a dit l'honorable André, ça sera toujours avec l'appui du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire quand ils vont pouvoir analyser en profondeur la rectification amenée par le gouvernement, et ils vont pouvoir demander en quoi réside exactement la rectification. Et là, il va y avoir un peu comme une sorte d'étude comparée pour voir qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui est constaté réellement sur le marché, quelle est la différence qui se dégage et quel est le réajustement nécessaire qu'il faut faire. Et là, on va même aborder la question soulevée par l'honorable André pour dire quelle est la projection dans 2, 3, 4 prochains mois pour pouvoir permettre à ce que le gouvernement n'ait pas la possibilité de revenir de manière intempestive avec des projets rectificatifs.
Et à ce niveau-là, l'honorable Massoumbo a quand même dit que pour lui, il semblait y avoir une certaine précipitation de la part du Premier ministre.
Oui, je crois que là, c'est une question importante qu'il soulève, mais j'ai une autre façon de pouvoir comprendre la chose. Je ne pense pas que ce soit une précipitation. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que le projet de budget présenté l'année passée au Parlement était en dessous par rapport au budget 2015, c'était déjà une façon d'anticiper, mais une anticipation qui n'est pas mauvaise, puisque gouverner, c'est aussi prévoir. Mais quand vous constatez ce qui s'est passé au premier trimestre, le Premier ministre l'a dit, et je crois que là, il ne s'agit pas de l'anticipation. Et je voudrais demander à l'honorable André de pouvoir examiner en profondeur la question qu'il venait lui-même de soulever, puisqu'en principe, lui, il est actif dans la commission, donc il a la possibilité de voir les données de manière palpable. Mais nous faisons aussi confiance au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la gestion quotidienne de ce pays et qui a le tableau convenable de tout ce qu'il y a comme cadrage macroéconomique et qui sait saisir les données de manière aussi palpable. L'honorable André va se rendre compte que le fait que le baril, je prends simplement le cas du baril, qui était à 30 dollars, qui est passé à 47,15, mais que vous avez budgétisé à 50, Mais je pense que si vous faites les calculs en termes de pertes budgétaires, c'est énorme. C'est énorme. Et je ne sais pas si vous mesurez les préjudices que vous avez causés à cette loi budgétaire. Le fait est que pendant 3 mois, 4 mois, le gouvernement, au lieu d'attendre $50 par baril, n'a reçu que $30 par baril, avec une différence de $20. Donc je crois que ça se dit bien, puisque nous parlons d'un baril, mais s'il faut cumuler et multiplier par autant, c'est beaucoup de recettes. Mais n'oubliez pas aussi que en budgétisant ces genres de recettes, au même moment à la commission budgétaire, à la commission financière, économique et financière, ou bien au Parlement comme autorité budgétaire, vous avez pu aligner les dépenses de la même manière et proportionner à ces recettes attendues. Mais le gouvernement ne peut pas diminuer les dépenses. C'est ça le paradoxe. Le gouvernement a dû supporter les dépenses du premier trimestre telles que vous les aviez prévues, mais le gouvernement n'a pas eu en termes ou en échange, en contrepartie, les recettes telles qu'il était prévu. Donc c'est déjà ça un exemple. Un peu comme un aveu, je crois que l'honorable le comprend, c'est un peu comme un aveu déjà de la difficulté dans laquelle ils ont dû plonger le gouvernement en termes d'exécution de
les ont donné des mauvaises
Oui, non, je voudrais dire quelque chose, s'il
vous plaît.
Je voudrais dire quelque chose par rapport au gouvernement qui ne vous explique pas les difficultés rencontrées lors de l'exécution du budget. Je crois qu'il y a des mécanismes parlementaires prévus en termes de contrôle qui peuvent être utilisés à tout moment pour pouvoir approcher le gouvernement et examiner avec lui ensemble quel genre de difficultés il rencontre en termes de la réalisation ou d'exécution du budget. Mais notamment, nous savons que très souvent, les taux d'exécution de notre budget de réalisation voisine toujours autour de 60. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que nous vivons depuis des années.
Il y a pour vous, honorable Moïse, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Oui. Fidèle Mugisho Kabunga, à partir de Bukavu, au Sud Kivu. La réduction du budget à 22% ne réduit et n'augmente rien aux citoyens congolais qui vivent dans la misère depuis très longtemps et qui ne voient jamais le budget résoudre leurs problèmes. À mon avis, pour faire face aux difficultés financières, il faut réduire sensiblement les salaires et les avantages des ministres, des députés, des sénateurs ainsi que de la présidence. Le contraire, le budget du pays ne servira que quelques citoyens pendant qu'un grand nombre souffre.
Brève réponse, honorable
Moïse. Je crois qu'il s'agit d'une question importante. Vous savez, depuis un temps, comme je venais de le dire, le budget est en train de monter en termes de taux. Nous sommes partis de moins d'un milliard jusqu'à 8 milliards aujourd'hui. Et logiquement, il fallait que le bien-être social puisse être ressenti de la même manière. Mais il y a toujours ce paradoxe qui fait qu'à un certain moment, le budget augmente, mais le social ne semble pas tellement suivre au même rythme, je voudrais bien dire. Même si ça suit, mais peut-être pas au même rythme. Mais je voudrais dire que à M. Fidèle qui est à Bukavu, que le gouvernement, déjà au début de cet exercice budgétaire, avait pris un train de mesures pour réellement diminuer le train de vie de certaines institutions, de certaines autorités animateurs des institutions, pour permettre à ce que le bien, le rien qui va être réalisé puisse être distribué de manière juste.
Honorable Masson, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Haut-Ouélé.
Christin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Ouélé. Ce n'est qu'une question du réalisme. À quoi servirait une prévision budgétaire fantaisiste qui n'impacterait à rien le social de la population congolaise? L'excellence ne serait-il pas plus réaliste et plus patriote d'une justice sociale en plus de la réduction de 22% de la prévision budgétaire à cause des baisses des produits miniers sur le marché mondial? S'il pensait à une autre politique consistant, par exemple, à la réduction des macro-émulations des politiciens de 22%, ensuite, une vraie lutte engagée avec contrainte et sachant punitive exemplaire et partiale contre les malversations financières des recettes fiscales sur l'ensemble du territoire national ne favoriserait-elle pas une éventuelle croissance budgétaire d'au plus 22%?
Avant d'aborder les solutions notamment proposées par l'auditeur, honorable Masumbu, on n'a pas encore beaucoup parlé des conséquences. Selon le président de l'Assemblée nationale, les priorités dans la répartition budgétaire seront la sécurité, la défense et les élections. Au revoir le social.
Non, bon, écoutez, là, on doit prendre le livre pour regarder quelles sont les rubriques qui ont été touchées dans la diminution de ces budgets. Et quand je regarde très bien, c'est d'abord le problème des interventions de l'État. Les interventions de l'État qui reprend pratiquement 40%, hein, 40% de... C'est-à-dire que les provinces n'auront pas totalement ce qu'ils attendent. Et puis, je jette un coup d'œil rapidement sur les équipements. Donc, il n'y aura pas assez d'investissement au cours de l'année. Et bon, quand il s'agit du social, c'est généralement, c'est le budget à travers sa distribution de revenus et ses paiements qu'il fait aux différents fournisseurs et aux acteurs, aux fonctionnaires. Et parce que vous remarquerez que même dans une province, lorsque les fonctionnaires ne sont pas payés, vous sentez vraiment une froideur. Donc la situation du marché financier ne marche pas.
L'argent ne circule,
pas. Et à ce moment-là, il y a une certaine pauvreté. Mais à partir du moment où le gouvernement paye son personnel, et que ce soit les institutions ou les fonctionnaires, vous sentez qu'il y a une certaine vie dans nos marchés. Et donc, le social, c'est dans le budget. Et l'État ne constitue que un acteur au niveau de l'économie. En dehors de l'État, vous avez le ménage, vous avez les entreprises, vous avez les restes du monde. Mais il faut savoir, l'État représente quel pourcentage dans l'économie d'un pays. Et l'État ne représente pas 50%, il représente à peine 30% de l'économie, du PIB de l'État. Vous vous rendez compte, aujourd'hui notre PIB est à 36 milliards. L'État, qu'est-ce qu'il a? Maintenant, nous réduisons à 6 milliards. Donc, vous regardez, vous allez constater directement que 6 milliards par rapport à 36 milliards du PIB, ben, faites le calcul, vous allez trouver environ 15 à 18% de l'économie que l'État représente dans l'économie nationale.
Alors, en guise de solution, Crispin pense que le gouvernement pourrait éventuellement avoir une croissance au-delà de 22% s'il y avait une véritable lutte engagée avec contraintes, sanctions punitives contre les malversations financières. C'est que Israël Moutal a appelé une certaine discipline dans la gestion. Est-ce que ce serait parmi les solutions?
Ben oui, l'écoulage de recettes. Ben, si nos acteurs, donc qui sont la Cour des comptes, l'inspection des finances, on leur laissait la liberté de contrôler réellement, hein, il y a coulage des recettes. Dans ce pays, tout le monde en parle. Donc il faut nécessairement qu'il y ait contrôle pour trouver pourquoi il y a ce coulage au niveau de nos services de collecte de recettes. Et c'est là que le gouvernement doit nécessairement frapper régulièrement pour voir où il peut chercher collecter de recettes. La TVA. La TVA devrait nécessairement, dans tous les pays du monde, sauf généralement le pays, que ce soit au niveau production intérieure, que ce soit au niveau des importations. Ben, la TVA devrait nécessairement permettre à l'État de pouvoir et corriger ses recettes. Mais malheureusement, malgré cette loi, la TVA n'a servi à rien parce que on n'arrive pas à maîtriser cette rubrique-là. Mais quant au sujet du social dont il parle...
Très rapidement, s'il vous plaît.
Ben, quant au sujet du social, ce n'est pas en diminuant les salaires des institutions, ce n'est pas en diminuant... Mais il faut voir l'ensemble de l'enveloppe du personnel. C'est-à-dire que s'il faut diminuer les trains de vie, ce n'est pas seulement à partir du ministre, mais il faut aller même au niveau des huissiers ou des députés, il faut aller au niveau même des huissiers.
Merci.
Tout le monde doit nécessairement subir cette diminution, ces trains de vie.
Merci. Israël Moutalaya, pour vous, cette réaction qui nous vient de la province du Sankourou.
Gaston Kanangelo depuis la province du Sankourou à Lodi. Je pense que cette cause n'est pas la seule. Il y en a plusieurs, notamment détournement des trains destinés à la caisse de l'État par les services de l'État. Quand vous essayez de comptabiliser l'argent de l'État qui entre par jour dans les poches privées, c'est grave. De deux, beaucoup de Congolais n'ont pas le souci de leur pays. Ils ne veulent pas travailler pour l'intérêt général. Non seulement ça, mais aussi une grande partie des Congolais ne connaissent pas l'importance de l'impôt
et de Sac.
Israël Moutala.
Oui, il a parfaitement raison. Ça veut dire qu'une partie de la faiblesse de la mobilisation des ressources internes, ça veut dire que nous partons d'un budget, d'un PIB d'à peu près 36 ou 40 milliards. Donc, si nous devons atteindre une moyenne raisonnable de pression fiscale, il faudra absolument que nous ayons des ressources propres en interne autour de 8 milliards. Voilà à peu près, de manière raisonnable, sur 40 milliards de PIB, on peut faire un effort pour mobiliser, pour que la pression fiscale soit au moins de 20%. Ça, c'est un peu la moyenne. Mais on a progressé parce qu'on avait une pression fiscale très basse. Maintenant, on est autour de 12 ou 13%. Mais la question des coulages de recettes, et c'est une question réelle. Mais sauf que pour collecter les recettes de l'État, on a besoin de bonnes lois, on a besoin d'un personnel qualifié, on a besoin d'une justice qui fonctionne, pour qu'il faut que les gens aient eu peur du fisc, il faut que les gens aient eu peur du magistrat. On est très loin du compte. La justice, l'administration, le fisc n'inspirent à aucun Congolais la peur. Nous sommes dans un pays où justement les politiques ne brillent pas par leur civisme fiscal. La plupart de nos politiques sont eux-mêmes des grands inciviques fiscaux parce qu'ils ne font pas toute la transparence autour de leurs revenus. J'étais dernièrement, il y a une semaine, à l'aéroport. J'entre avec, j'étais à bord la voiture, j'entre et voilà, je veux payer ma quittée de ma taxe. Eux-mêmes, les agents de l'État, commis à ce service de collecter cette taxe là-bas pour aller parquer à l'intérieur et faire des formalités pour le voyage, ils vous disent eux-mêmes non, donne-nous l'argent ici, ne paye pas, fais-nous la moitié. J'ai dit non, donnez-moi la quittance, moi je vais payer. Ils m'ont dit non, la personne qui a la quittance dort encore et n'est pas encore réveillée. Enfin, je suis allé même du côté de la nouvelle aérogare, de l'autre côté aussi. Oh non, la personne était ici, elle s'est déplacée. C'est pas possible. Donc, à un moment, il faudrait absolument que les dirigeants... Mais je comprends qu'il y ait cette cassure, cet incivisme fiscal, cet incivisme fiscal dans la population. Pourquoi ? Parce que nos dirigeants n'ont pas prêché par l'exemple. Et les propos de l'honorable André Massoumbou ne vont pas y contribuer. Quand il dit que la réduction du train de vie rime avec les efforts que tout le monde doit consentir au sommet jusqu'au huissier, non. Le huissier gagne à peine de quoi vivre. Donc, à peine le $100 et tout ça, les enseignants, tout ça, ils ne peuvent pas consacrer les mêmes sacrifices. Les sacrifices doivent être consentis au niveau, notamment des institutions politiques, les parlementaires. Ils sont budgétivores. Dans un pays comme celui-ci, avec une telle pauvreté, on ne peut pas avoir des revenus autour de $10,000. C'est indécent. On ne peut pas avoir des revenus pour les députés ou des ministres au-delà de $10,000. Indécent, c'est indécent. Ou les parlementaires. Les députés provinciaux, les gouvernements, ils ne peuvent pas avoir ces revenus-là. Donc, quand vous regardez, notre budget, notre PIB, on ne peut pas se permettre de telles rémunérations. Donc, nous avons des députés, nous avons des ministres qui ont des salaires équivalents à des pays occidentaux. Mais en termes de budget, en termes de PIB, c'est la jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et donc, nous devons faire un effort. Mais je pense que le gouvernement a, en pareille circonstance, la loi rectificative ne peut que évincer ce qu'on appelle les projets d'investissement. Parce que s'il attaque les rémunérations, les investissements sont la richesse de demain. Mais aujourd'hui, il ne faut pas aussi que la loi rectificative tue la croissance économique. Parce que si vous baissez les salaires ou les salaires baissent ou vous ne les versez plus, ça ne va plus alimenter la consommation intérieure, ça va encore étouffer la croissance économique. Or, il faut une croissance économique qui va créer la richesse sur laquelle l'État va prélever de la richesse. Donc c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir. Et donc la loi rectificative doit être assez intelligente pour justement évincer les dépenses superfétatoires, mais les dépenses d'investissement ne le sont pas, mais pour les trains de vie des institutions, il faudra faire en tout cas d'énormes sacrifices.
Il faut jouer à l'équilibriste.
Ouais, il faut être courageux. Je l'avais dit ici l'autre fois, par exemple, des institutions budgétivores inutilement comme le service national. Là, l'honorable Antoine Lokondo y était revenu. Il y a des postes budgétaires et des institutions à supprimer, les lignes budgétaires qui ne valent rien, et j'aimerais que les députés soit assez courageux pour dénoncer toutes ces institutions, services nationaux, réserves stratégiques, et il y a toute une litanie de services budgétivores qui ne servent à rien. Merci. Et après, je termine sur un petit point, sur la primature. Bon, j'aimerais, c'est vrai que ce n'est pas ça, la surconsommation des crédits à la primature, c'est pas une bonne chose. Mais je rappelle quand même ici que la gestion au quotidien de l'État, c'est la primature. Et donc, le fait de gérer de manière quotidienne l'État, il y a des urgences qui ne sont pas prévisibles, qui peuvent comprendre qu'il y ait parfois des dépassements de crédit. Merci. Toutes les institutions n'ont pas la même urgence en termes de consommation de crédit.
Voilà, il y a quelques auditeurs qui nous ont écrit. Albert Kolembela de Kisangani, avec ce budget en réduction, on vient de réduire le sachet de la ménagère, car plus de 60% vont rester chez les politiciens pour laisser le peuple à leur triste sort. Michael Archange, reste à savoir quels secteurs de la vie sociopolitique et économique nationale seront touchés par cette réduction budgétaire. À mon humble avis, il faut diminuer les dépenses de la bureaucratie de la capitale et encourager la décentralisation. Dieudonné Kayembe, 8 milliards et 6 milliards, ce sont des montants fantaisistes pour preuve. Il n'y a jamais eu l'évaluation après dépenses, donc rien ne prouve qu'on atteigne ce montant. Avancer la baisse des prix de cuivre comme raison pour revoir ce fameux budget, c'est la pire distraction, parce que quand le prix du même produit augmente, nous ne voyons pas ce budget augmenter. Je termine par Michael Archange. Reste ça, oui, j'avais déjà lu. Voilà. Honorable Moïse, pour vous, la solution, c'est quoi?
Monsieur Alain, je crois qu'il faudra d'abord apaiser l'opinion. Je crois qu'il ne faudra pas qu'on traumatise vos auditeurs en disant qu'avec la loi qui est sous examen au Parlement, du coup, demain ou après-demain, ça sera les salaires des huissiers, des fonctionnaires qui vont souffrir.
Être divisé par deux, par trois.
Non, je ne pense pas. C'est ce que j'ai dit. Je crois que l'honorable Massoumbou, l'honorable André qui est au Parlement, il doit nous apaiser également. Je ne pense pas que ces lignes budgétaires, en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, devront être concernées par cette rectification. Et je l'ai dit tout à l'heure ici que quand l'on fait des prévisions budgétaires en termes de dépenses et de recettes, il y a ce que l'on appelle des dépenses contraignantes. Et les rémunérations en sont une. Donc, vous ne pouvez pas aligner au début de l'exercice un salaire d'un fonctionnaire à X montant et croire que puisque les recettes ne sont pas en train de suivre et que un trimestre après, vous puissiez demander à ces fonctionnaires d'accepter de diminuer son salaire ou de le diviser par deux ou par trois. Je crois que ça sera un peu beaucoup plus difficile et mal ressenti par notre peuple, et je crois que Israël a eu aussi des mots justes pour le dire. Il ne faudra pas que dans cette rectification, on puisse décourager la croissance économique. Puisque pour tout ce que nous connaissons, le cadre macroéconomique et la croissance économique qui aujourd'hui est en train d'étendre vers le déchiffre, c'est avec les efforts de tous les Congolais. Mais les efforts de tous les Congolais ne peuvent être fournis que lorsque les fonctionnaires sont plus ou moins payés, même si on ne dit pas qu'ils sont payés convenablement. Donc je ne crois pas qu'ils puissent être concernés par la question. Mais j'ai entendu tout un tas de questions et de préoccupations de vos auditeurs. Mais je voudrais simplement dire que parmi les raisons qui poussent le gouvernement à pouvoir rectifier le budget de 2016, c'est simplement puisque entre autres la diminution des recettes en exportation attendue, mais il y a aussi les promesses qui sont moins probables d'être réalisées en termes des recettes extérieures, puisque notre budget, on parle bien de 8 milliards, mais les 8 milliards ne sont pas constitués des recettes intérieures. Donc nous avons à peu près 60% des recettes qui sont intérieures et le reste ce sont des recettes que nous attendons de nos partenaires financiers. Et quand on constate que ces partenaires financiers ne peuvent pas répondre par rapport à leurs promesses, il est tout à fait prudent que l'on puisse prendre des mesures nécessaires pour pouvoir ajuster les prévisions qui ont été arrêtées et ne pas être pris à court. Mais je voudrais aussi dire que ce qui arrive généralement, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons d'une rectification de la loi de finances à la baisse. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais demain, si sur le plan économique et sur le plan international, les choses s'améliorent, il faut avouer que le Parlement peut toujours recevoir une autre correction, cette fois-là à la hausse, et améliorer l'économie et le social de tous les Congolais.
Honorable Massoumbou, en guise de conclusion, la RDC ne devrait-elle pas diversifier son économie?
Absolument. On a parlé ici de que notre économie extravertie, c'est bien, mais il faut dire une chose d'abord. Je commencerai par les salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas que en diminuant le train de vie des institutions, il faut nécessairement que les salaires des fonctionnaires diminuent. Non, mais il faut faire un effort à partir du haut et en bas. Et cela ne veut pas dire que ceci les salaires nécessairement qu'il faut diminuer. Donc c'est un point que nécessairement faut tenir compte. La croissance a été prévue à 9% et passée à 6%. Donc nous devons nécessairement revoir toutes les rubriques nécessaires et voir si le tonnage de mines
Merci.
Qui a été constaté en premier trimestre a été supérieur par rapport à la moyenne.
Merci. Israël, conclusion.
Conclusion, moi je pense qu'il faut absolument des coupes sombres dans certaines rubriques budgétaires. Et là, ça sera la solution. Sinon, nous allons connaître une hyperinflation. Mais toutes les institutions, quand même, j'aimerais dire aussi quand même que l'Assemblée nationale est une institution quand même qui s'est comportée de manière exemplaire en termes de consommation de ses crédits. Elle a consommé moins que prévu. Donc, c'est aussi quand même, pour être honnête, Merci. Ça mérite d'être souligné.
Merci, monsieur. Cette émission est terminée. Vous pouvez la réécouter en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa ou la retrouver sur radiocapi.net. Merci de votre attention, au revoir.